Bonsoir, bienvenue dans cette tribune de la presse qui vous propose trois thèmes ce soir, à savoir l'opposition décide de dessaisir la communauté internationale au sujet du vote de la proposition de loi portant révision constitutionnelle et attirer ainsi son attention sur les dangers qui guettent le processus de paix en République démocratique du Congo. Ensuite, dernier incident à l'université de Kinshasa, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire accuse une main noire, cherchant selon lui à soulever les étudiants et discréditer le pouvoir. Et enfin, l'Assemblée nationale a entériné samedi dernier les propositions des membres devant faire partie de la Commission électorale nationale indépendante soumise en sigle. Participe à ce débat, trois consoeurs journalistes, il s'agit de Marcel Ngoï, il est éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir Dimitri.
Yvon Mouya, il est journaliste à la radio-télévision digitale Congo, qui est né depuis Kinshasa. Bonsoir Yvon Mouya.
Bonsoir Dimitri.
Maurice Nkayilou, il est éditeur du journal Tambour Battant, c'est un mensuel paraissant à Matadi au Bas-Congo. Bonsoir Maurice Nkayilou.
Bonsoir, chers confrères.
Nous allons écouter cette revue de presse que nous propose Samuel Katiak pour savoir comment la presse chinoise a traité les différents thèmes prévus pour le débat de ce soir.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa ont largement commenté la démarche de l'opposition envers la communauté internationale au sujet de la révision constitutionnelle. Le parti titre, en délégation à la MONUSCO, l'opposition met le point sous les i. Ce journal indique que cette délégation de l'opposition est venue rencontrer les responsables de la MONUSCO. Ils ont exprimé leur vive inquiétude face au mécontentement populaire croissant, ceci suite aux mauvaises conditions de vie et à la modification de la Constitution, ce qui fait croire à une planification des fraudes électorales. La tempête des tropiques, de son côté, parle d'une mauvaise augure en cette année électorale. Ce journal estime que malgré le rappel à l'ordre par l'opposition pour le respect sans condition de la Constitution, la majorité au pouvoir reste déterminée à faire valoir sa volonté au risque d'ouvrir la voie à la contestation des résultats électoraux. L'avenir, quant à lui, qualifie la pétition proposée par Vital Paméré contre la révision constitutionnelle d'un coup d'épée dans l'eau, car selon notre confrère, il ne suffit pas d'initier une pétition, encore faut-il qu'elle passe au Parlement. Processus électoral toujours, l'unanimité vient de se dégager sur les 7 membres désignés, 4 pour la majorité et 3 pour l'opposition, pour faire partie du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, titre le potentiel. Ce journal rapporte que l'aval ayant été obtenu, la voie est ouverte pour une nouvelle bataille, celle de la désignation du président du bureau et de ses collaborateurs immédiats. La prospérité, quant à elle, parle d'une guerre de succession de Malou Malou engagée au sein de la CEI. Ce journal souligne cependant que des tractations sont déjà en cours, tant au niveau de la majorité que de l'opposition. Terminons cette revue de la presse avec les derniers incidents qui ont survenu la semaine dernière à l'université de Kinshasa. L'OFA qui revient sur ce sujet annonce une vive tension suite à la controverse qui s'est installée autour des funérailles des étudiants morts lors des événements du jeudi 13 janvier dernier. Ce journal qui parle même de funérailles problématiques indique même que la méfiance s'est accrue à l'UNIKIN depuis que s'est répandue la nouvelle de l'inhumation jugée en catimini de l'étudiant Michel Mbaye Ntumba, le deuxième doctorat en médecine, assassiné dans la nuit du 4 janvier.
Merci Samuel Katiak pour cette revue de presse. Marcel Ngoï, vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous commentez le travail de la presse chinoise de cette semaine?
Un travail intense, un travail fort mouvementé, fort enrichi ou enrichissant.
parce que la presse, comme vous le savez, elle est derrière les événements, elle court derrière les faits pour les rapporter avec objectivité. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu pour les uns et les autres de longues nuits pour pouvoir décrypter tous les faits d'actualité. Aujourd'hui, j'estime que la presse fait son travail de façon tout à fait normale, et même si cela est un travail délicat qui demande beaucoup de parcimonie, qui est trop exigeant en termes de temps et d'énergie et même de moyens.
Yvon Mouillard, vous êtes journaliste à la radio télévisée d'Ista Congo. Votre commentaire?
Oui, mais c'est une preuve qu'il y a effectivement une certaine liberté d'expression dans notre pays. La presse s'est lancée dans des commentaires un peu plus larges sur ce sujet de la révision de la Constitution. On a tout de suite vu que dès lors que la bataille au niveau du Parlement est terminée, d'ailleurs, je crois qu'on va l'évoquer, la révision déjà d'ailleurs promulguée par le chef de l'État, il est temps maintenant de se lancer dans les analyses pour projeter l'avenir. Et bien sûr, chacun tire un peu le droit du côté où il se trouve, notre presse qui est, il faut le souligner, divisée par la majorité de l'opposition. Tout le monde se lance dans les analyses selon le camp où l'on se trouve. Et ça, c'est une bonne chose pour la démocratie.
Maurice Caillou, vous êtes éditeur du journal Le Tambour Battant. C'est un mensuel qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Quelle est l'information qui a dominé l'actualité au Bas-Congo cette semaine?
Merci beaucoup. Au niveau de Matadi, l'information qui défraye de manière préoccupante la chronique au Bas-Congo est celle relative à l'infiltration par les frontières du Bas-Fleuve avec Kabinda et le Congo-Brazzaville de Zexofal, aujourd'hui en détention à la prison centrale de Kamolaye-Matadi. D'ailleurs, le sénateur Jacques Mbadou en a parlé dernièrement du haut de la tribune du Sénat. Notre confrère Patrick Palata, c'est un directeur de la chaîne de télévision CTV à Matadi, aurait été arrêté en rapport avec cet événement. Il sera d'ailleurs déféré devant la justice militaire. On aura toute la lumière sur cette arrestation à cette occasion. À part cette nouvelle qui défraye la province du Bas-Congo, les problèmes ayant trait à la révision de la Constitution, les problèmes ayant trait à la CENI, tous ces faits-là sont en train d'attirer la curiosité du public à Matadi. Et d'ailleurs, depuis un certain moment, c'est toute l'opinion avisée qui court vers la presse écrite pour chercher la vraie information, quand on sait que parfois, dans notre pays, avec des situations que nous connaissons, on embrigade les journalistes, on manipule l'information, mais au moins, pour avoir l'équilibre ou pour avoir l'objectivité, il faut courir vers la presse écrite.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. L'opposition décide de saisir la communauté internationale au sujet du vote de la proposition de loi portant révision constitutionnelle et attirer son attention sur les dangers qui guettent le processus CDP en République démocratique du Congo. L'opposition entend ainsi exprimer son mécontentement et pour ce faire, une rencontre s'est tenue lundi dernier au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Elle a réuni Mme Leïla Zerougui, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies et une délégation de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Parmi eux, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation Congolaise. Il explique l'objet de cette rencontre au micro de Nadine Poula.
Si nous sommes venus à la MONUSCO, c'est pas pour blermisser, c'est pas pour vendre la souveraineté de notre pays. C'est parce que ce processus avait été garanti par la communauté internationale qui avait signé sur le papier de l'accord global et inclusif. Donc, on ne peut pas se réveiller un matin et dire que nous changeons une constitution pour laquelle nous avons fait une campagne pendant une année à travers tous les pays, voté au référendum, et aujourd'hui, on visite tous les articles, compris l'article 220, sans ne vous oublier que la révision implique que le gouverneur, désormais, quand le président est de mauvaise humeur, il peut le remercier. Ça implique que quand le président se réveille du mauvais pied, il peut dissoudre les assemblées provinciales. Alors que nous devrions avancer en organisant les élections municipales, locales et urbaines pour approcher les gouvernants des gouverneurs, voilà, nous faisons bon dans l'inconnu et nous rentrons 20 ans en arrière.
Nous rappelons que le ministre de la Justice a annoncé hier à la télévision nationale que la nouvelle constitution a été promulguée par le chef de l'État. Marcel Ngoï, comment vous analysez cette démarche de l'opposition?
C'est une démarche justifiée par le souci qu'a cette opposition de pouvoir s'exprimer. C'était tout à fait normal en démocratie, exprimer son point de vue, manifester son mécontentement. manifester sa contestation, sa désapprobation. Et je crois que c'est tout à fait normal. Dans tout système démocratique, il faut encourager ce genre de choses parce qu'on ne peut pas avoir une démarche unilatérale où il n'y a qu'un son de cloche, on n'entend pas ce que les autres peuvent penser. Mais cela ne suffit pas pour épuiser les débats. Parce qu'au stade d'aujourd'hui, cette démarche paraît anachronique. Parce que, en fait, la Constitution révisée a été promulguée
depuis hier.
Et donc, la démarche paraît aujourd'hui inopportune. Moi, je pense que, au-delà de tout ce qui a été dit en amont, ce qu'il faut aujourd'hui en aval, c'est pouvoir repenser l'action de l'opposition dans le sens de s'organiser pour faire face à la situation. Le mieux serait aujourd'hui que l'opposition passe du temps à construire, à concevoir de nouvelles stratégies pour affronter les élections, même à un tour. Et j'ai apprécié personnellement ce que j'ai entendu auprès d'un proche de Ken Tshisekedi, que le leader Maximo de l'UDPS serait prêt à affronter les élections, même si c'est à un tour. Et voilà, un son que je mérite peut-être entendre de plus en plus, parce que c'est là aussi pour ceux qui ont cru qu'en investissant dans cet exercice de révision constitutionnelle, et avec pour conséquence l'élection présidentielle à un tour, cela va pousser ces gens à se raviser parce qu'en fait, personne n'est convaincu de l'issue. Ce n'est pas un acquis. La majorité ne peut pas aujourd'hui prétendre que parce qu'il y aura élection à un tour, ça sera forcément leur candidat, le candidat de la majorité. Et c'est pourquoi j'ai dit l'opposition devait autrement concevoir la stratégie d'avancer plutôt que de continuer à pérorer sur des choses qui, aujourd'hui, apparaissent, à mon avis, au passé.
Et comment l'opposition doit repenser cette stratégie?
Oui, c'est ce qu'elle doit faire parce que la bataille au niveau du Parlement est terminée. Vous l'avez souligné, la Constitution a été promulguée telle qu'elle vient d'être révisée. Alors, fallait-il voir la communauté internationale, fallait-il tirer la sonnette d'alarme au niveau de ceux qui nous ont aidés à arriver aujourd'hui au stade d'organiser des élections? Je crois que c'était une démarche tout à fait normale avant même la promulgation de cette révision. Moi, j'ai souligné cela après le vote au niveau du Congrès. J'avais dit qu'il faut attendre avant de se lancer dans les pronostics. Il faut attendre la réaction de deux personnes ou trois au niveau de l'opposition. J'avais cité Vital Kamerhe et Etienne Tshisekedi. Quelle pouvait être leur réaction après la révision, le vote au niveau du Congrès? Et c'est leur réaction qui peut déterminer aujourd'hui la façon dont ces élections peuvent se passer.
C'est déjà la première réaction, c'est celle de Kamerhe qui a initié cette démarche auprès de la communauté internationale.
Oui, c'est une façon de montrer que nous existons et nous sommes contre ce que vous venez de faire. Pour une opposition digne de ce nom, il fallait faire quelque chose. Bon, quant à choisir un candidat, s'organiser au niveau de l'opposition, ça demande quand même une certaine organisation. C'est des partis qui sont indépendants les uns des autres. Et ils ont des ambitions, Kamerhe a des ambitions, qui sait que c'est le candidat naturel de l'opposition. Alors tout cela demande un temps. Je crois que Marcel a raison, il faut s'organiser. Mais comment? Pas tout de suite, pas de manière, je dirais, pas dans la précipitation, parce que chaque candidat au niveau de l'opposition a des ambitions qu'il faut déterminer pour qui sait que ou Kamerhe, qui va gagner quoi après si on soutient telle personne. Je crois que l'option est celle-là, de trouver un candidat, mais cela va prendre du temps, et c'est à ce niveau que la majorité attend l'opposition au tournant.
Maurice Payelou, par rapport à cette révision constitutionnelle, la communauté internationale s'est exprimée, du moins une partie de cette communauté internationale, parce que hier, les ambassadeurs de l'Union européenne se sont exprimés au Grand École de Kinshasa. Ils disent ceci, je cite, « Nous ne pouvons pas juger le système électoral. C'est de la compétence de l'Assemblée nationale et du Sénat. » Et vous pensez que avec cette réponse de la communauté, d'une partie de la communauté internationale, la démarche menée par l'opposition va aboutir à quelque chose?
Merci beaucoup. C'est tout à fait normal. La communauté internationale ne gère pas le pays. En même temps, les pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, est souverain. Donc, en fait, il concerne des problèmes ayant trait aux élections. C'est nous qui les gérons, c'est nous qui devons en décider. Bien qu'il soit le financier, mais je crois que la position qu'ils ont défendu est tout à fait valable. Alors, quand une marche est menée par Vital Kamerhe, il a aussi pleinement raison parce que comme nous sommes dans, nous pouvons être dans une maison, quand la maman ne trouve pas son compte sur le comportement qu'affiche le papa, c'est tout à fait normal que la maman puisse poser le problème à l'extérieur, là où deux personnes sont en train de se battre, il faut qu'il y ait une troisième personne pour chercher à le départager. Mais là où le problème tend à devenir un peu insoluble, c'est dans le sens que l'amitié a été tellement stratégique qu'elle est allée vite à la solution. C'est-à-dire que au départ, on a parlé du projet de la proposition de la révision constitutionnelle. Cette constitution a été révisée et aujourd'hui, elle a été promulguée. Et du moment qu'elle a été promulguée, moi, personnellement, je suis pessimiste si l'opposition peut avoir quelque chose dans cette démarche. Mais, qu'à cela ne tienne, l'opposition n'a qu'à forcer la note. Peut-être que l'histoire peut nous dire autrement la face du problème, la réalité.
Nous allons maintenant lire les hymnes de certains journaux. Nous avons le Phare, le quotidien de Phare ici qui dit élection 2011, Washington pose deux conditions. Le quotidien Forum des As dit position de l'ambassadeur des États-Unis à République démocratique du Congo sur la révision de l'article 71. Ce n'est pas le nombre de tours du scrutin qui compte. Le quotidien Le Palmarès dit présidentiel 2011, l'opposition apprête une candidature unique. Le quotidien L'Avenir dit révision constitutionnelle, les États-Unis s'alignent, l'Église catholique comprend-elle ou recule? C'est la question que L'Avenir pose. Le quotidien Le Palmarès dit présidentiel à tour unique, l'opposition congolaise face à un choix cornélien. Et L'Avenir dit révision constitutionnelle, pétition des Kamerhe, un coup de pied dans l'eau. Et enfin, la tempête des tropiques dit avec la promulgation hier par les chefs de l'État des dispositions modifiées de la Constitution, la RDC désormais exposée à l'instabilité. Marcel Ngoï, à quoi cette promulgation de la Constitution révisée exposerait la RDC à l'instabilité, comme le dit la tempête des tropiques?
Mais c'est vrai que lorsqu'on touche à la Constitution, qui est la loi des lois, donc on secoue ce qu'on appelle le panier qui porte les abeilles. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'opposition et la majorité sont divisées. Nous étions d'accord parce que la première constitution, celle du 18 février 2006, c'est une constitution consensuelle. C'est une constitution issue des accords, issue d'un long processus qui a conduit au référendum. Alors, dès lors qu'une des parties à la gestion du pays, une des parties importantes, la majorité, a initié cette révision, il allait des fois que l'opposition fasse son travail, de s'opposer, de contester, d'avancer des contre-propositions. À l'étape où nous sommes, je venais de le dire tout à l'heure, il n'est plus possible que la roue de l'histoire recule. Il n'est plus possible qu'aujourd'hui nous sommes vendredi, qu'on revienne à jeudi. C'est impossible. La marche de l'histoire est unidirectionnelle. Au jour d'aujourd'hui, l'éveil est tiré, l'ami de Matabi l'a dit, ce qu'il faut, c'est avancer. Je continuerai à plaider pour l'accord de l'opposition, s'il le faut, de façon que cette opposition comprenne que le moment, effectivement, est venu, au-delà du fait qu'on ait contesté ce qui a été fait, de concevoir la stratégie pour barrer la route, entre guillemets, à ce qui pourrait arriver. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse développer une vision fataliste, parce que je n'en suis pas un prophète. J'aurais voulu plutôt que nous puissions développer une vision optimiste des choses. C'est-à-dire qu'on dédramatise la situation. La révision constitutionnelle, qu'on se le dise, elle est légale. Elle est constitutionnelle. La Constitution a prévu en elle-même les mécanismes de sa révision. C'est un débat qui a été fait, qui n'est pas terminé peut-être dans les esprits de certains, mais la vérité c'est celle-là. L'unique problème qui s'est posé, à mon sens, c'est l'opportunité. Les uns et les autres dans l'opposition ont parlé de l'opportunité. Est-ce qu'il fallait attendre, par exemple, qu'on soit à 10 mois, à 11 mois, à 10 mois des élections pour pouvoir toucher à la Constitution? C'est un problème d'opportunité. Mais la question de la révision en tant que tel, n'est pas anti-constitutionnel, n'est pas inconstitutionnel.
Oui, Yvon Mouya, vous avez souhaité que l'opposition repense ses stratégies. Une des stratégies montées actuellement par l'opposition, c'est aussi ses projets de pétition à envie de collecter des signatures dans tout le pays hein, pour un retour au soutien des tours. Vous pensez qu'à travers cette approche, l'opposition pourrait obtenir gain de cause, c'est-à-dire elle parvient à collecter les nombres requis des signatures, et par conséquent, la proposition est renvoyée au Parlement et la Constitution est révisée de nouveau, et donc on revient au soutien à des tours. Est-ce que ce scénario est possible?
Je pense plutôt le contraire. C'est possible dans la mesure où récolter des signatures, c'est quelque chose de très simple. Vital Kamerhe, qui a initié cela, a prouvé qu'il est encore populaire, notamment dans l'Est, il peut le faire. Il peut associer d'autres partis de l'opposition, qui peuvent récolter très vite les 100 000 signatures requises pour accepter cette pétition. Mais le problème va résider au niveau du débat, parce que ça va passer au Parlement. Les deux chambres vont devoir examiner cela quand on sait que la majorité est de l'autre côté. Je crois que c'est une démarche irréaliste. Et alors, même si cela arrive à être voté, et j'ai entendu quelqu'un dire que, mais qu'est-ce qui peut empêcher à un autre politicien de démobiliser aussi les 5000 signatures? Donc, on va faire une sorte de cercle vicieux. Kamerhe prend les 5000, il révise la Constitution si, par miracle, cela peut passer au Parlement. Et un autre membre de la majorité peut faire de même. Donc je crois que je peux plutôt souhaiter le point de vue de Marcel, qui envisage plutôt les choses de manière avancée. Le vin est tiré, il faut tirer les conséquences, il faut voir comment est-ce que l'opposition peut affronter les élections plutôt que de penser à des pétitions. Je crois que ça, c'est perdre le temps, à mon avis.
Oui, Maurice Kayelou, selon toujours Vital Kamerhe qui a initié cette démarche, les résultats de cette pétition vont constituer pour l'opposition la préfiguration des résultats des élections de 2011. Comment vous appréciez l'opinion exprimée par Vital Kamerhe?
Oui, la révision de la Constitution procède d'une procédure constitutionnelle, c'est-à-dire officielle. Comme aussi la démarche menée par Vital Kamerhe, c'est une démarche jugée tout à fait de constitutionnelle ou d'officielle. Mais là où le bas blesse, c'est quand le Parlement est occupé par la majorité, c'est-à-dire cette majorité qui a une pensée unique, cette majorité qui prend fait et cause pour une décision commune décidée la veille. C'est là où il y a des incertitudes. C'est-à-dire, Vital Kamerhe pouvait arracher facilement les voix. Et ça, je suis optimiste qu'il va les arracher partout dans les provinces. Mais le problème, c'est que quand il atterrit au niveau du Parlement, là où il y a la majorité, je ne pense pas qu'il peut obtenir gain de cause. Nous l'avons vu, la révision de la Constitution, le 18 janvier 2007, le chef de l'État s'est opposé à la révision de la Constitution, notamment au niveau de l'article qui disait un élu du peuple qui se retrouverait au niveau du Sénat ou au niveau du Parlement. S'il perdait son mandat, il pouvait rentrer au niveau de cette situation. Le chef de l'État s'est opposé. Mais aujourd'hui, quelques 4 ans après, la majorité a opté pour une nouvelle dynamique qui aboutit à cette révision de la Constitution. Donc moi, je pense que actuellement, la seule alternative que nous pouvons souhaiter à l'opposition, c'est de s'organiser et de bien s'organiser de façon que l'opposition puisse opter pour un seul candidat qui sera présenté et qui va se battre avec le candidat de l'AMP.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Derniers incidents à l'université de Kinshasa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire accuse une main noire cherchant, selon lui, à soulever les étudiants et discréditer le pouvoir. La mort de l'étudiant de l'université de Kinshasa la nuit du 13 au 14 janvier dernier ne relève pas de l'étouffement des ans. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui explique cette hypothèse. Léonard Matako Mamba, qui l'a dit vendredi dernier à la presse, estime qu'il s'agit partie d'une main noire cherchant à soulever les étudiants et occasionner un carnage pour enfin discréditer le pouvoir, comme ce fut le cas en 1990 avec l'université de Lubumbashi. Et l'attitude des politiciens dans les événements de l'Unikin n'est pas innocente, conclut Masako Mamba sans citer de quel bord ils appartiennent. On écoute le ministre Masako Mamba dans ses propos recueillis par Innocent Olinga.
Lorsque l'on meurt par pendaison, par strangulation, je vous parle en tant que médecin, c'est que l'observant enregistre une diminution brutale de l'air, et donc le réflexe normal d'autodéfense de survie, c'est qu'on ouvre la bouche, on sort la langue, et les yeux sont ouverts quand on meurt par strangulation. Ce qui a frappé, c'est que suspendu, il avait la bouche fermée, il avait les yeux fermés, les photos qui étaient prises montrent en fait qu'il a été tué auparavant et qu'on a fait ce simulacre d'une autopendaison. Nous sommes convaincus que les actes posés c'est avec une vraie science et que ça ne peut pas être gratuit. Je peux vous dire avec certitude qu'il y a une main noire ou des mains noires, mais je serais devant si je vous disais ils sont de tel bord ou de tel bord. Ce sont les investigations qui sont en cours.
Yvon Mouya, le ministre Machako accuse une main noire. Comment vous réagissez à cette déclaration du ministre Machako?
C'est un membre du gouvernement qui a peut-être des informations que nous n'avons pas. Mais tout ce que moi j'ai à dire ici, c'est que en même temps qu'on peut chercher la main noire, il faut résoudre le problème qui est réel, l'insécurité à l'Unikin. Lors de la précédente émission, je l'avais souligné, pour un pouvoir, lorsqu'on signale un problème de sécurité, notamment un corps ramassé et puis quelqu'un pendu, tué ou un suicide, ça reste à vérifier, il faut prendre ce problème avec tout le sérieux possible, ce qui n'a pas été fait à mon avis dès le départ. Le ministre est allé pour une sorte de mise en place d'une cellule de crise au niveau de l'Unikin, mais après ce qui s'est passé, c'était incontrôlable. Donc je crois que si on peut accuser une main noire, c'est le gouvernement qui travaille, qui a des services, et ça, à mon niveau, en tant que journaliste, je ne peux pas le nier ou le soutenir. Seulement, le gouvernement n'a pas bien joué son rôle. Lorsqu'on a signalé au départ le premier décès, et puis quelqu'un qui a été pendu, il fallait prendre des mesures sécuritaires, engager les services compétents. Le ministre est responsable de l'enseignement supérieur, mais il n'est pas responsable de la sécurité. Ce qui n'a pas été fait au départ, et ça, c'était pas bien joué de la part du gouvernement.
Bastien Ngoyi, lorsque le ministre Masako Mamba parle d'une main noire, à qui serait-il allusion à votre avis?
Faire allusion, c'est un peu aller trop vite. Moi, je pense que c'est un aveu d'incoutance. On ne peut pas être ministre et continuer à constater. On est ministre pour anticiper, pour décider. Parce que gérer, c'est prévoir.
Mais on peut aussi dénoncer.
Oui, c'est faisable. Mais pas forcément après. Ce ne sont pas des dénonciations ex post. Ça fait des dénonciations ex ante. C'est-à-dire qu'il faut. Moi, je préfère qu'on ait une politique d'anticipation. Qu'on puisse essayer de prendre toutes les mesures. Aujourd'hui, c'est à l'Unikin. Demain, ce sera peut-être Lupin. Et l'autre jour, ce sera l'État. Hier, on a déploré des morts dans la partie est de la capitale, du côté de Massina, de Kingasani. Donc, le week-end, on a déploré des cas d'insécurité dans la commune de Mongafula. Certains membres de ma famille en ont vécu, en ont payé le fait. Donc, quelque part, la recrudescence de l'insécurité. Faut-il qu'on vous rappelle qu'on a tué un prêtre togolais dans la même commune de Mongafula. Donc, ça veut dire qu'il y a un phénomène sérieux qui s'appelle insécurité. Cela appelle des mesures. Il faut des mesures drastiques pour pouvoir décourager toutes les personnes qui s'entêtent. Moi, j'estime que la tétutesse dans les actes indélicats doit être punie. Il existe la justice dans notre pays, il existe les services de renseignement, les services de sécurité, nous avons l'armée requinquée par les dernières nominations, et nous avons la police requinquée par la série de nominations. Donc, pourquoi on nomme les gens? C'est pour seulement rétribuer à des postes, à de nouveaux grades, ou c'est pour que les gens prennent des responsabilités? Je voudrais dire que la plupart des gens qui sont nommés passent du temps où? Dans leur maison.
ou en train de faire le travail qu'il faut faire. Je crois qu'il faut renforcer les patrouilles nocturnes. Et je crois qu'il faut prendre des mesures, renforcer. Donc, il faut suivre aussi de nommer, il faut doter à cette police des moyens suffisants. C'est le moment de faire appel à cette communauté internationale, aux gens qui nous ont toujours aidés d'une manière ou d'une autre, au-delà de peu de moyens qu'on puisse avoir, qui peuvent de plus en plus accroître leur capacité d'intervention pour essayer de donner un sommeil paisible aux Congolais. Et aujourd'hui, on parle d'insécurité, il n'y a pas encore d'élection. Lorsqu'on va faire le transport des kits, lorsqu'on va passer aux élections, procéder à des opérations pré-électorales, donc on va passer à des moments que j'appelle des moments rouges, où vous dormez aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va vous attraper à la tête.
Oui, Maurice Ntayilou, vous êtes à Matadi au Bas-Congo, vous avez suivi ce qui s'est passé il y a une semaine à l'université de Kinshasa, et vous venez suivre la déclaration du ministre Bachako qui accuse une main noire. Et le conseil vient de parler d'un problème réel qui se pose, c'est un problème d'insécurité qui se pose avec la cité et qu'il faut forcément solutionner. Et vous, quel autre élément vous ajoutez par rapport à cette déclaration du ministre Bachako Mamba?
Merci beaucoup. On ne doit pas accuser pour le simple plaisir d'accuser. S'il faut que nous puissions juger fonder ces accusations, nous devons attendre le résultat de la justice. Et comme il en a parlé, les enquêtes se poursuivent, nous devons attendre la fin des enquêtes pour essayer d'avoir une idée nette sur ces événements. Dire que je suis une main noire, nous sommes à Matadi, nous avons beaucoup d'étudiants matadiens qui étudient au niveau de l'UNIKIN. Nous avons essayé de les interroger, mais en tout cas, ils ont écarté cette possibilité-là et entré à une mémoire. Et nous devons savoir aussi que les étudiants, ce sont des grands responsables, ce sont des gens qui agissent, ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui raisonnent, ils sont allés étudier pour qu'ils puissent mettre leur intelligence un jour au service du pays, mais quelque part, quand ils ne se retrouvent pas, ou bien qu'elles se rendent compte que après les études, nous n'allons pas nous retrouver. C'est normal que parfois, un site universitaire puisse devenir un foyer de tension. Ça, nous devons le mettre en tête. Et comme le confrère qui m'a précédé l'a dit, donc, c'est question de chercher des solutions pour mettre fin à ce genre de situation qui venait à peine de commencer. Et je voudrais ajouter un élément. Ça fait longtemps que j'ai été au niveau du site universitaire de l'UNIKIN, mais apparemment le site n'est pas sécurisé. Et pratiquement dans tous nos instituts supérieurs, toutes nos universités, le campus ne sont pas sécurisés. N'importe qui peut y entrer et n'importe qui peut y sortir. Quand vous allez à l'UNIKIN, un garde malade, un malade qui va à la clinique universitaire se retrouve, dans le homme vise, se retrouve dans tel ou tel autre homme. Mais ces gens qui ont quoi être des gardes malades, on ne sait pas les surveiller, on ne sait pas les contrôler, ils peuvent se permettre d'aller poser n'importe quel acte. Moi, je pense que au lieu peut-être d'accuser l'autre partie, parce que le ministre en tant que du gouvernement, quand il doit accuser, il me noirce que il fait allusion, peut-être, ça c'est moi, merci, peut-être à l'opposition, mais peut-être aussi que ce n'est pas vrai. Donc, nous devons aller au but, c'est-à-dire chercher à sécuriser le peuple de façon que le peuple vive avec la paix.
Merci. Merci Ngoyi. Maurice Ntayilou vient d'évoquer, il dit que lorsque le ministre parle d'une mémoire, il est de la majorité, certainement qu'il vise l'opposition. À votre avis, l'opposition a-t-elle intérêt à manipuler les étudiants en ce moment-ci?
Oui, l'opposition peut profiter de ces foyers de tension pour en faire un champ d'expérimentation de sa contestation, c'est-à-dire faire une base de repli. C'est possible. On a vu à l'époque l'opposition mobiliser les étudiants. Ça, c'est faisable. Ce n'est pas exclu. Mais je ne dis pas que dans le cas d'espèce, c'est cela qui a été fait, parce que personne ne peut étayer avec des preuves que c'est l'opposition qui a manipulé. Là, je crois que le ministre a eu raison d'exprimer des réserves, parce qu'il voulait suspendre la confirmation au résultat des investigations en cours. Je note tout simplement que nous ne pouvons pas réorienter ou rejeter aux autres ce que nous devons faire. Nous aimerions que le pouvoir que nous avons ait une attitude responsable. Nous avons un problème réel d'insécurité dans la ville de Kinshasa et en province. Souvenez-vous que dernièrement, on a tué le vice-président fédéral du MLC à Bukavu. Souvenez-vous qu'on a tué un journaliste à Uvira. Donc, des tueries, elles sont organisées dans le pays. Tout dernièrement, le respect des mouvements a été fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des soubresauts, il y a eu des agitations. Donc, j'estime à mon sens qu'il faut prendre des mesures maintenant.
Yvon Mouya, l'opposition aurait intérêt à manipuler les étudiants à ce moment?
Moi, je crois que le gouvernement doit éviter ce genre de situation, surtout en cette période de débat très très important pour le prochain rendez-vous, qui est les élections. Ça se passe quand? En plein débat sur la révision de la Constitution. Moi, je me souviens, au lendemain des manifestations qui ont encore causé des morts au niveau du campus, les étudiants ont décidé de monter sur la place Victoire, qui est une place symbolique ici à Kinshasa. C'est là-bas qu'on trouve toutes les personnes de toutes sortes, et à ce niveau, tout peut s'embraser. Donc, l'opposition qui attendait l'échec de la révision peut saisir cette situation-là pour faire échec exactement à cette révision. Donc, le gouvernement doit anticiper sur les événements. Il ne faut pas laisser, puisque un petit feu s'allumer, ça peut embraser tout et ça peut nous amener à des situations irrécupérables.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. L'Assemblée nationale a entériné samedi dernier les propositions des membres devant faire partie de la Commission électorale nationale indépendante tenue en sigle. La majorité présidentielle a présenté le pasteur Ngoï Moulunda, Flavien Nissoni, Élisée Nkoï qui remplace Maître Christian Kakonde, ancien troisième vice-président de la CEI, et Mathien Pita, ancien ministre des Transports et Voies des Communications. D'autre part, l'opposition a présenté le sénateur professeur Jacques Joly, le député Ndaye Nkondo et Mme Carole Kabanga comme membres. Cet entériment met fin aux suspens observés sur la mise en place de la CENI depuis l'ouverture de la session de septembre 2010. Yvon Mouya, et je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Digital Congo, qui est né depuis Kinshasa. Les membres de la CENI sont enfin connus, c'est une nouvelle qui est attendue. Vous, comment vous commentez cette nouvelle?
Ah, c'était une énorme surprise pour tout le monde, hein, y compris pour nous, la presse, qui étions là. C'est intervenu après le vote et après la clôture, enfin, au moment de la clôture de la session extraordinaire dernièrement. Les noms qui sont publiés, qui sont retenus, sont les noms que tout le monde contestait. Alors, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais moi, mon analyse personnelle, c'est que la majorité a voulu jouer à l'apaisement. Après un débat houleux qui a laissé des traces au niveau de l'opposition, parce qu'il faut rappeler que l'opposition n'a pas voté dans sa majorité la révision, parce qu'il y a quelques éléments de l'opposition qui ont pu voter. Alors, il fallait faire un geste d'apaisement. Enfin, c'est comme ça, à mon avis, que la majorité a estimé nécessaire de
réglager
de lâcher, du laisse, voilà le mot, de retenir le nom comme celui de Jacques Joly que tout le monde ne voulait pas en tout cas voir sur cette liste des représentants de l'opposition à la CENI. Et finalement, c'est retenu tout comme Daniel Ngoï Moulunda que l'opposition ne voulait pas. Mais tout cela était fait sans l'opposition. On n'a pas encore suivi les réactions au niveau de l'opposition, mais je crois que c'était un signe nécessaire pour apaiser un peu de tension. Ça reste à voir si ça fait quelque chose pour calmer la colère de la révision au niveau de l'opposition.
Maurice Kailou, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Tambour Battant, un mensuel qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Une autre étape importante, c'est la répartition des postes. Pensez-vous que cette étape sera franchie aisément?
Merci beaucoup. Du moment qu'il y a eu des contestations, c'est qu'il n'y a pas eu de tous qui ont plu à beaucoup de membres des partis politiques. La CENI, c'est un peu comme je peux le dire, ça sera le prolongement de la CEI. Donc le problème que nous avons dans les pays, le choix de ces membres, y compris leur province d'origine, pouvait créer des problèmes. Dans le sens que quand ça ne répond pas au principe de géopolitique, ça pouvait encore entraîner ce clivage entre l'Est et l'Ouest que nous avons connu au terme des élections de 2006. Moi, je pense que s'il y a contestation, il y a moyen de revoir pour maintenir l'unité, la paix et la concorde nationale. Parce que ce problème de Ceni, c'est un peu comme la conséquence, c'est une conséquence de la révision de la Constitution. Vous voyez, la paix a trop attendu, mais immédiatement après la révision de la Constitution, une fois encore, l'AMP a gagné son pari en mettant en place le membre de fonds composé la CENI. Donc, quelque part, ils le font, ils les taillent, ils le font sur mesure, de façon qu'ils se retrouvent dans tout le processus électoral.
Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité. Le palmarès titre, il dit ceci, guerre larvée à l'AMP, CENI tire croisé entre Boutiab et Pierre Lumbi. Vous pensez que l'étape de la répartition des postes au sein de la CENI va se faire avec aisance?
Ça va se faire, ça s'est toujours fait. C'est comme tous les exercices auxquels on a assisté. Je voudrais juste souligner en passant que nous avons perdu inutilement de temps pour mettre en place cette CENI. Parce que je n'ai pas compris les débats qui ont focalisé toute l'attention de la majorité de l'opposition autour de cette CENI. Comment on pouvait chercher des personnalités indépendantes alors qu'on a exclu la société civile dans la composition de la CENI? Et on voulait rechercher les personnalités indépendantes issues de deux familles. C'est un non-sens. Et on a perdu du temps. Et ça ressemblait un peu à des discussions des gens qui cherchent à connaître le sexe des anges. Vous voulez chercher parmi les politiques, les non-politiques. C'est pas compréhensible. Et bien hélas, aujourd'hui la CENI est là. Les gens vont s'entendre. La majorité va se mettre autour d'une table. Et j'aimerais souligner en passant que c'est l'opposition qui était la première. Elle a toujours été divisée. Elle était la première à proposer une liste, alors que la majorité avait traîné les pieds. Au jour d'aujourd'hui, même les calendriers malou-malou est rattrapé par le temps et largement dépassé. Parce qu'il y a des opérations qui étaient prévues dans les calendriers contestés de malou-malou qui ne sont pas faites. Ce qui suppose que nous avons un problème de temps. Alors, la date, la première date, parce qu'on parle de la présidentielle à un tour, mais la présidentielle à un tour est fixée au 27 novembre
2011.
La fin du mandat de cette législature, c'est le 6 décembre. Soit moins d'une semaine après. Donc, tout calcul fait, il faut y aller vite si on veut organiser les élections dans les délais constitutionnels. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que des consultations qui se font tout autour du calendrier, de la transparence, ces consultations avec la communauté internationale doivent tenir compte de toutes les réalités. Donc, il y a une responsabilité qui découle de la révision, il y a une révision qui provoque le mécontentement et la colère des uns et des autres, mais aussi la responsabilité qu'il faut organiser les élections dans les délais constitutionnels, en respectant les délais et les conditions voulues.
Merci, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était à la technique, Alain Hirong à la réalisation, assistée de Samuel Akate de Kéline Couté, sous la supervision de Télé Kipela Mondo, devant ce micro, Guy Maté, merci et on se retrouve vendredi prochain. Thank you.